Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Et 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, le retour du masque en extérieur. Éric Zemmour devant la justice. Et puis cette enquête sur les enfants transgenres. Un médecin explique sur RTL recevoir 10 enfants chaque mois contre 10 par an il y a 10 ans.
Juste après le journal, nos deux débats du jour. Le Covid, je vous le disais, va-t-il à nouveau gâcher Noël? On a dépassé hier les 20 000 nouvelles contaminations quotidiennes. On sera avec le professeur Éric Combe. Et puis à 12h50, le pronom YEL, I-E-L. C'est la contraction de IL et de ELLE qui fait son entrée dans le dictionnaire. La langue française est-elle en danger ?
Notre question du jour sur RTL.fr, elle concerne justement le Covid. Êtes-vous inquiet pour les fêtes de Noël? Vous dites non à 49%. La météo du jour avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Bon, on a mis des couleurs tous, hein, parce oui. que c'est bien bien gris comme le costume de Pascal.
Oui, c'est vrai, exactement. Peu de changements en plus cet après-midi, si ce n'est quelques éclaircies qui vont revenir par la Manche. Dans le sud-est, à l'opposé, les quelques éclaircies entre deux nuages, parce qu'il y a quand même des nuages entre PACA et les Alpes. Des averses sur la Corse et pour un vrai beau soleil. Ça se passe uniquement sur le Languedoc-Roussillon et vous l'avez compris, partout ailleurs, du sud-ouest au nord-est, ça reste couvert avec des pluies éparses, le tout sous des températures comprises entre 7 et 13 degrés, jusqu'à 18 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc direction Saint-Étienne où le masque est à nouveau obligatoire en extérieur. Bonjour Frédéric Perruche, vous êtes sur place pour RTL. Le préfet de la Loire a décidé de durcir le ton face au regain de l'épidémie.
Exactement, mais pas partout. Aux arrêts de bus désormais, de tram, aux entrées des centres commerciaux et surtout dans les marchés de plein air, comme ici Cours Foriel, où le message n'est pas encore tout à fait passé.
Faut le mettre ?
C'est depuis hier, c'est obligatoire sur les marchés.
Ah, c'est pour ça que je ne le savais pas alors. Bon, ben, on le met, puis c'est tout. Hein. On n'a pas le choix parce qu'il y en a marre. Il faudrait que ça s'arrête cette épidémie. Là. Plus le temps que ça dure, ça gâche la vie de tous.
Même si aucun panneau ne signale ce retour de l'obligation de porter le masque sur ce marché, la majorité des clients respectent la consigne relayée par les commerçants.
Disons que la pandémie est en train de redémarrer, il faut prendre des précautions et se protéger. Je crois que si on nous dit que c'est préférable, il faut le faire.
Ça vous dérange pas de le faire?
Non, pas du tout. On est en extérieur, donc dès qu'on a quitté un peu le marché, on peut l'enlever, ça pose pas de problème.
Une mesure décidée par la préfecture car le taux d'incidence dépasse les 100 cas pour 100 000 habitants. Il a doublé en deux semaines sur la Loire.
Frédéric Perruche en direct de Saint-Étienne pour RTL. Des décisions similaires ont été prises dans plusieurs communes du Loir-et-Cher, à Blois, Romorantin ou encore Vendôme. Hier, on le rappelle, le nombre de nouvelles contaminations a dépassé les 20 000 en France, plus 40% en une semaine. C'est une première depuis fin août. Le nombre de personnes hospitalisées progresse également. 7 735 hier, c'est 15% de plus qu'à la fin du mois d'octobre.
La solution, vous le savez, les autorités et les médecins le répètent, c'est bien sûr la vaccination.
Et l'engouement autour de la troisième dose depuis l'allocution d'Emmanuel Macron semble se confirmer. Près de 100 000 nouveaux rendez-vous pris chaque jour. Un rappel qui concerne les plus de 65 ans, les soignants et ceux qui souffrent de comorbidité, mais aussi, et ça c'est nouveau, Odile Pouget, ceux qui ont reçu une dose de vaccin Janssen.
Alors en France, ils sont 1 million à avoir reçu ce sérum en une seule dose. Et très peu ont fait leur rappel, 300 000 seulement, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. Alors, comment expliquer ces réticences? Ce vaccin a été utilisé essentiellement pour deux types de populations. Ceux qui ne désiraient pas un vaccin ARN messager et qui préféraient une seule dose. Et puis les plus précaires, isolés des parcours de soins dans des quartiers défavorisés, vu cette vaccination beaucoup plus pratique. C'est donc une population plus difficile à informer et aussi à convaincre de la nécessité de ce rappel. Ce rappel, on le précise, il doit être réalisé avec Pfizer ou Moderna et cela non pas au bout de 6 mois après leur injection, mais 4 semaines plus tard, ce vaccin unidose étant moins efficace que les autres contre les formes graves liées au variant Delta. C'est pour cette raison que la Haute Autorité de Santé, d'ailleurs, avait émis cette recommandation fin août. Donc, d'ici le 15 décembre, les 700 000 patients concernés n'ont pas reçu cette injection, eh bien leur passe sanitaire sera invalidé.
Voilà, c'est ça qui est important de rappeler. Si au 15 décembre, pas eu cette nouvelle dose pour les vacciner Janssen, plus de passe sanitaire. Merci à vous,
qu'ils aient plus ou moins de 55 ans, de 65 ans, nous le répétons.
Absolument, hein. Ça c'est clair.
Absolument, c'est clair. Tous ceux qui sont vaccinés avec Janssen.
Merci beaucoup, Odile. L'actualité, c'est aussi le procès d'Éric Zemmour, le polémiste toujours pas candidat, jugé pour complicité de provocation à la haine raciale après des propos tenus l'an dernier à la télévision, propos sur les mineurs isolés. Guillemette Franquet, vous êtes sur place pour RTL. Sans surprise, l'audience s'est ouverte sans l'accusé.
Oui, en effet, Éric Zemmour n'est pas venu à l'audience comme annoncé par son avocat, maître Olivier Pardot. Une absence que dénonce maître Carcenti, avocat de la Maison des Potes, association partie civile au procès.
Bah, c'est un grand classique maintenant. Éric Zemmour ne se présente plus. On voit bien qu'il affiche un mépris total pour la justice. Et il écrit à longueur de tribune qu'il méprise les tribunaux. Son absence est à mon sens, un mépris ultime.
Mais même en son absence, l'audience a commencé par une mise en garde. Le tribunal sera vigilant à la sérénité des débats et la tranquillité de l'audience, a déclaré la présidente. La matinée a été consacrée notamment à une demande de renvoi de la défense. Les avocats d'Éric Zemmour et du directeur de publication de CNews demandaient en effet plus de temps pour lire les conclusions des parties civiles. Une demande rejetée par le tribunal. Le rappel des faits vient de se terminer. Le 29 septembre 2020, Éric Zemmour a traité les mineurs isolés étrangers de voleurs, d'assassins et de violeurs sur CNews. Le polémiste risque un an de prison et 45 000 euros d'amende. S'il est condamné, le juge peut également le rendre inéligible. Mais c'est une peine rarement prononcée pour ce type de délit.
Guillemette Franquet devant le tribunal correctionnel de Paris pour RTL. Ces nouvelles arrestations dans la mouvance de l'ultra-droite, deux individus ont été interpellés hier, l'un à Montauban, l'autre en Gironde, repérés par des échanges sur messagerie cryptée. Ils appelaient visiblement à des actions violentes. On ne sait pas en revanche s'ils avaient l'intention de passer à l'acte. Ce qui est sûr, c'est que les autorités ont saisi un important stock d'armes lors des perquisitions. Et puis alors que le phénomène balance ton bar prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux ici en France, la nouvelle procureure de Paris annonce sur RTL l'ouverture d'une grande enquête. Plusieurs plaintes de victimes potentielles du GHB, cette drogue du violeur, sont d'ailleurs en cours d'examen.
Nous avons à l'heure actuelle 9 plaintes. Nous avons démarré et regroupé ces enquêtes depuis le 8 novembre, donc c'est vraiment tout récent. Et ce que nous sommes en train d'accomplir pour le moment, c'est évidemment toutes les analyses toxicologiques des plaignantes, afin de savoir si, évidemment, elles ont été bien victimes de ce que l'on appelle l'administration de substances de façon non consentie. Moi, je voudrais profiter de votre question pour vraiment faire de la prévention, hein, dire aux ces jeunes femmes qui fréquentent ces établissements festifs
les
de se méfier.
Discothèque, ouais.
Voilà, de se méfier quand même de ces substances qu'on peut introduire à leur insu dans leur verre et dans leur consommation.
La nouvelle procureure de Paris, Laure Bécquiot, invitée ce matin d'Alba Ventura sur RTL.
C'est une décision inédite. Décathlon qui retire ses kayaks de la vente dans tous les magasins de la Côte d'Opale.
Décision prise après la disparition la semaine dernière de 3 migrants qui tentaient de traverser la Manche à bord de ce type d'embarcation. Franck Hanson, bonjour. Vous êtes sur place pour RTL. La mesure fait bien sûr réagir.
Oui, au vu des risques que prennent ces migrants ici, les responsables locaux de l'enseigne nordiste ont donc retiré ces embarcations, souvent d'ailleurs utilisées par les exilés qui n'ont pas les moyens de solliciter les réseaux de passeurs. Une décision logique donc pour François Guénoc de l'Auberge des Migrants.
C'est pas la première tentative, la plupart ont échoué, mais il y a des gens qui ont réussi à passer quand même sur des embarcations extrêmement petites. Donc cette décision paraît relativement logique. Ça paraît même bien que Decathlon se préoccupe de l'utilisation de ces minuscules embarcations. Malgré tout, ce matériel peut être acheté dans d'autres magasins, peut être acheté sur des plateformes d'achat. Il y a déjà eu des vols dérobés dans des clubs nautiques. Donc c'est une mesure plus symbolique que véritablement efficace.
La préfecture avait déjà sollicité les fournisseurs de matériel nautique. Devant le magasin de Calais, ici, des clients habitués à croiser ces candidats à l'exil s'interrogent également sur l'intérêt de cette mesure. En tout cas, ce groupe d'Afghans que j'ai croisé a pu acheter plusieurs gilets de sauvetage, toujours disponibles.
Border, for water, this jacket for water. Yeah, thank you.
Leur traversée est prévue dans 3 jours.
Franck Hanson en direct de Calais pour RTL. Calais où les 2 militants associatifs qui étaient en grève de la faim depuis le 11 octobre en soutien justement aux migrants ont annoncé ce matin la fin de leur action. Leur état de santé, explique-t-il, ne leur permet plus de tenir. Et puis vous l'avez peut-être entendu ce matin sur RTL, le témoignage de ce pédopsychiatre qui reçoit de plus en plus d'enfants transgenres. Écoutez.
Il y a 10 ans, j'avais 10 demandes par an. Aujourd'hui, j'ai 10 demandes par mois. Tous les espaces de consultation qui ont ouvert sur ce sujet sont saturés. Donc, il y a plus de jeunes qui viennent pour parler de ces questions-là. Ça, c'est vrai.
Bonjour Agathe Landé.
Bonjour.
C'est vous qui avez enquêté pour RTL sur ce sujet. On vient d'entendre ce médecin qui parle de 10 demandes par mois contre 10 par an il y a 10 ans. Est-ce qu'on connaît vraiment l'ampleur du phénomène ?
Alors, il n'existe pas de chiffre officiel en France, mais selon un rapport commandé par le Conseil de l'Europe en 2014, les enfants transgenres représenteraient une naissance sur 500. Les professionnels de santé qui s'occupent de ces questions, les endocrinologues, les pédopsychiatres, nous ont bien confirmé qu'il y a plus de demandes ces dernières années. En 2020, par exemple, 700 mineurs environ étaient reçus dans des consultations spécialisées à Paris. Aujourd'hui, un enfant de moins de 16 ans qui souhaite changer de sexe peut prendre des bloqueurs de puberté, mais l'assurance maladie n'a pas souhaité nous indiquer combien d'enfants en bénéficient aujourd'hui en France.
Justement, c'est quoi ces bloqueurs de puberté ? J'imagine que c'est très très encadré.
Évidemment, ils sont en fait prescrits par des endocrinologues après un suivi de plusieurs mois de l'enfant par un pédopsychiatre. Ce traitement bloque en fait le développement des hormones naturelles, l'apparition des seins ou des règles pour les nées filles, de la barbe ou de la voix qui mue pour les nées garçons. Ils peuvent ensuite être prescrits à l'apparition de la puberté, dès 10-11 ans à peu près, à la destination donc d'enfants qui souffrent de mal-être très profond, car ils se sentent en décalage avec le genre assigné à la naissance.
Merci beaucoup Agathe pour toutes ces précisions. Agathe Landais.
Et 12h41 dans une seconde, ce sera le premier débat du jour. Le Covid va-t-il à nouveau gâcher Noël ? On a dépassé hier les 20 000 nouvelles contaminations. Nous serons avec le professeur Éric Combe dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Il faut oublier probablement les vacances de Noël. Peut-être que cette année, le Père Noël, ça sera Skype.
On peut aller chez papy et mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux. Papy et mamie mangent dans la cuisine et nous, on mange dans la salle à manger.
Ça, c'était il y a un an, en novembre 2020, 12 mois plus tard.
C'est des phrases cultes. Hein,
oui.
Je vous assure, c'est des phrases qui resteront dans notre mémoire pour toujours.
Prononcées, on le rappelle, par des médecins. 12 mois plus tard, nouvelle alerte. Le cap des 20 000 nouveaux cas a été franchi hier en France et les projections les plus alarmistes évoquent le chiffre de 50 000 nouvelles contaminations par jour d'ici décembre. Alors le Covid va-t-il ou non gâcher les fêtes de Noël ? C'est notre premier débat d'RTL Midi. Bonjour professeur Combe.
Bonjour.
Vous êtes chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci infiniment d'être en direct avec nous sur RTL. Alors on en rigole de ces petites phrases. N'empêche qu'elles ont marqué, il faut le dire, l'opinion et qu'elles ont peut-être sans doute sauvé des vies à l'époque. Est-ce que les auditeurs doivent s'inquiéter pour les fêtes de fin d'année de cette année, d'après vous ?
Bah écoutez, je pense que ça dépend beaucoup de leur état vaccinal. C'est-à-dire que s'ils sont vaccinés correctement, de mon point de vue, ils n'ont aucune raison de s'inquiéter des fêtes de fin d'année.
Vaccinés avec un rappel pour ceux qui sont concernés, c'est ça ?
Exactement. Vaccinés avec un rappel pour les personnes de plus de 60 ans et les personnes de plus de 50 ans à risque. Et à cette rubrique-là, je pense qu'il faut un peu accélérer l'administration de la troisième dose. Mais si ça se fait correctement, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter de manière majeure. Mais il faudra bien préciser qu'il faudra aussi se vacciner contre la grippe.
Est-ce qu'on peut avoir, M. Combe, d'un côté 50 000 cas quotidiens et de l'autre côté des hôpitaux qui ne sont pas débordés ?
C'est effectivement... Une bonne question. En fait, il est un peu trop tôt pour savoir comment les hôpitaux vont être impactés. Ça va beaucoup dépendre des régions. Il est très probable que les régions qui ont été très impactées lors des premières, deuxième et troisième vagues, comme la région parisienne, l'est du pays, vont être beaucoup moins impactées. Par contre, les régions de l'ouest, comme on le voit d'ailleurs actuellement, seront probablement un peu plus impactées. Et on voit à peu près les mêmes différences au niveau européen. Les pays du sud, Espagne, Italie et peut-être France seront moins impactés que l'Allemagne, l'Autriche ou les Pays-Bas qui ont été moins impactés lors des premières vagues.
Je reviens sur deux petites choses que vous nous avez dit. Vacciner plus vite en troisième dose, la dose de rappel, ça voudrait dire quoi ? Avancer l'âge
voudrait dire ne pas attendre début décembre pour s'y mettre, quoi.
Il y a une petite déception quand même sur ce vaccin, parce que si on arrive à 50 000 cas quotidiens, on sait qu'il protège contre des formes graves, et ça c'est formidable. En revanche, il ne protège pas autant qu'on ne l'imaginait contre la transmission. Manifestement, on est vacciné, on transmet quand même. Est-ce que ces 50 000 cas possibles révèlent précisément que cette transmission par les vaccinés a lieu d'une manière plus importante qu'on imaginait ?
Bah, il faut quand même rappeler, oui, vous avez raison, hein. C'est vrai que le vaccin est moins efficace que ce qu'on imaginait au début, mais il prévient quand même les formes graves.
Et c'est l'essentiel.
Il prévient les entrées en réanimation.
Nous sommes d'accord, c'est l'essentiel.
Non, mais c'est ça qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent. Il faut leur rappeler que les gens qui sont en réanimation, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés pour 90% d'entre eux. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est là-dessus qu'il faut insister. Parce que si vous voulez, on a une arme préventive qui est quand même très efficace, et on ne voit pas pourquoi on contemplerait l'entrée des gens à l'hôpital parce qu'ils ne se vaccinent pas.
Est-ce que vous diriez que le virus, le variant, est plus résistant qu'on ne le croyait il y a quelques mois ?
Non, il est maintenant il occupe tout l'espace, hein, le variant Delta, c'est quasiment 100% des cas. On ne voit pas de variant, émerger de manière importante. On est en train d'arriver progressivement à un état d'immunité collective, doucement mais sûrement. Je vous rappelle que la quatrième vague a quand même été très peu importante. Alors c'est vrai que cette cinquième vague, on a des raisons légitimes d'être inquiets parce qu'on n'en connaît ni la durée ni l'amplitude. Mais on a d'autres raisons de ne pas s'inquiéter, notamment la vaccination.
On sait que ceux qui sont le plus en difficulté sont souvent ceux qui ont plus de 65 ans. Je crois que 73% des gens qui sont décédés avaient plus de 75 ans. Est-ce que vous seriez favorable à un pass vaccinal obligatoire pour les plus de 65 ans ?
C'est sûr que la question de l'obligation vaccinale se pose de plus en plus. Si les mesures de contrainte ne suffisent pas à augmenter la couverture vaccinale, notamment dans les populations à risque, il est légitime que les pouvoirs publics se posent la question de rendre cette vaccination obligatoire.
Vous y seriez favorable, vous ?
Ben, écoutez, je vous avoue franchement que je commence à me poser la question. Vraiment, parce que...
Il reste 1 million de gens, je crois, au-dessus de 65 ans. Il resterait 6 millions de gens en France qui ne sont pas vaccinés, dont 1 million, visiblement, de plus de 65 ans qui ne sont pas vaccinés.
Oui, c'est ça. Je ne me rappelle plus exactement le chiffre, mais...
C'est à peu près cet ordre d'idée. Donc, il y a 1 million de gens de plus de 65 ans qui mettent en péril les hôpitaux s'ils contractent la maladie. Est-ce qu'il faut les forcer à se faire vacciner ?
Je pense que c'est une question dont la légitimité se pose, effectivement, en sachant que les obligations vaccinales concernent surtout pour l'instant les enfants. Mais bon, peut-être que dans cette circonstance exceptionnelle, il va falloir y réfléchir.
Mais les enfants, après, ils ne vont pas en réanimation, a priori, je dis bien a priori.
Non.
Donc c'est pour ça que cette population de plus de 65 ans, elle est fortement à risque.
Professeur... Comme juste une toute dernière question concernant, et c'est un autre débat du moment, la gratuité des tests justement pour endiguer cette cinquième vague. Certains demandent à ce qu'ils soient à nouveau gratuits parce que ça permettrait plus tout à fait d'évoluer correctement l'épidémie. Vous en dites quoi, vous ?
Alors c'est sûr que le fait d'avoir changé cette problématique autour du remboursement des tests, ça a changé les personnes qui se font tester et du coup on peut plus comparer correctement, on peut plus interpréter aussi bien, enfin comme on le faisait sur les mêmes critères qu'avant, cette augmentation des pourcentages de tests positifs. Alors de là à dire qu'il faut les rembourser de nouveau, je crois que ça a coûté à l'État quand même une grosse fortune, me semble-t-il, qui se chiffre en plus d'un milliard. Donc je comprends qu'on se pose la question d'en rester à ce statu quo du non-remboursement.
Mais d'un point de vue sanitaire, ce serait peut-être bien. Uniquement sanitaire.
Oui, bon, par ailleurs, je rappelle quand même qu'ils sont remboursés pour les gens malades, pour les contacts et pour la plupart des gens qui ont vraiment besoin d'être testés.
Merci Monsieur Combe, merci, et avec vous, grâce à vous peut-être, on va poser une question aux auditeurs tout à l'heure. Faut-il obliger la population de plus de 65 ans à se faire vacciner ? Ça, c'est une excellente question pour nos auditeurs et je ne doute pas qu'il y ait débat sur cette question. Dans une seconde, ça sera l'autre débat, le pronom IL, I. EL, qui est la contraction de il et de elle, qui fait son entrée dans le dictionnaire Le Petit Robert. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Il y a un nouveau mot dans Le Petit Robert de cette année. 3 lettres seulement, mais il fait beaucoup de bruit. C'est le pronom YEL, contraction du IL et du EL.
YEL qu'on ne trouve pour l'instant que dans la version en ligne du Petit Robert. Officiellement, rien n'est encore tranché pour la version papier, mais déjà la mesure fait réagir. Un député LREM s'est dit stupéfait hier de voir, je le cite, le wokisme entrer dans le dictionnaire. Il a d'ailleurs reçu le soutien du ministre de l'Éducation nationale. nationale. Alors, faut-il vraiment s'inquiéter? La langue française est-elle en danger ou s'agit juste d'une polémique, d'un coup de pub? On en parle avec Jean-Joseph Julot. Bonjour et merci d'être en direct avec nous. Vous êtes écrivain et auteur du Français correct pour les nuls. D'abord, ce pronom « iel », on le rappelle, contraction donc de « il » et de « elle », c'est du wokisme d'après vous, ça ou pas?
Non, je vais vous dire que l'irruption soudaine de ce pronom « iel » m'a beaucoup amusé, j'ai beaucoup ri, j'ai trouvé ça extrêmement comique. Je vais vous dire pourquoi. C'est que ce pronom « iel » ne m'est pas inconnu. Étant donné que je suis originaire de Haute-Bretagne, Saône-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan, Côte-d'Armor, eh bien ce pronom-là existe depuis des siècles. Il existe dans la langue galaise, dans le gallo. Le gallo qui est une langue en voie de disparition parce qu'elle était orale, et donc le pronom « iel » existe. Et cette langue, reconnue par le Conseil régional de Bretagne en 2004, vient du gaulois, du français, du viking.
Il a la même signification ?
Alors, il n'a pas tout à fait la même signification. Mais étant donné que ce pronom « iel » fait une irruption et qu'on le considère tout à fait tout neuf, eh bien, moi, je pense qu'il y a là matière à aller en justice parce que c'est une utilisation frauduleuse d'un pronom personnel qui existe déjà. C'est une dénaturation du pronom, c'est un vol linguistique. C'est une usurpation, quoi, vous voyez. Enfin, ça, c'est pour le côté comique.
Oui, hein, sur le fond.
Sur le fond, je plains de tout mon cœur mes collègues enseignants. J'ai été longtemps enseignant, j'ai 30 ans d'enseignement. Je les plains d'avoir sur les bras ce pronom supplémentaire. Comment vont-ils l'expliquer? Comment vont-ils en expliquer l'orthographe? Comment vont-ils en expliquer la survenue dans un ensemble qui est déjà difficile à faire intégrer aux enfants? Je plains les enfants aussi, qui vont devoir imaginer ce que ça représente. Évidemment, c'est une idéologie. Et pour eux, les idées, eh bien, c'est encore en germination. Ils n'ont pas cette maturité nécessaire. Et je suis, disons, peiné de voir qu'il y a là ce pronom qui se répand. Et j'espère, comme vous le disiez tout à l'heure, que la version papier, on va y réfléchir quand même.
Mais ce qui est intéressant, monsieur Julot, et parce que je ne parle pas le gallo hein, dans le texte, ce qui est intéressant, c'est que généralement, entre dans le dictionnaire un mot qui est déjà dans le langage courant et qui est, j'ai envie de dire, ratifié par le dictionnaire. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire que le mot « iel », et on voit bien la démarche du petit Robert, c'est presque d'imposer un mot qui n'existe pas dans le langage courant. Personne ne dit « iel ». Donc, il y a une démarche volontariste, wokiste, pourquoi pas, dans le petit Robert.
Mais c'est entré en force, oui, dans le langage. C'est entré en force dans le langage.
Oui, mais ça marche jamais dans ces cas-là. On n'impose jamais un mot comme ça. C'est la rue qui décide des mots.
Mais bien sûr, voilà, comme le disaient les poètes du XVIe siècle, Ronsard et Dubellay sont allés chercher les mots des crocheteurs du pont au foin. C'est-à-dire, ils allaient écouter les gens. Et puis, petit à petit, ils faisaient entrer ces mots-là dans le langage. Or, là, eh bien, il n'y a plus de crocheteurs de pont au foin, mais on peut aller écouter dans la rue le mot. Bon, on ne l'entend pas. Hein.
Mais c'est peut-être Robert... aussi une manière de se faire de la pub, disons-le, et la preuve,
oui,
c'est qu'on
en parle. Oui, parce que le Robert se défend.
Voilà. Il ne faut pas l'ignorer.
Que le mot est peu utilisé, mais en forte croissance depuis quelques mois, et que c'est donc important de préciser son sens pour ceux qui souhaitent l'employer ou au contraire le rejeter, c'est ce qu'ils disent en tout cas dans leur communiqué. Quoi.
Bien sûr, mais c'est pas à Robert de faire ça, c'est à l'Académie française.
L'Académie comment on dit au revoir, monsieur Julot, en gallo-romain? Comment on dit passer une bonne après-midi, dit, par exemple, en gallo-romain?
Comment on dit? Eh bien, on va demander à Yel. Hein.
Ah bon, d'accord. Mais merci en tout cas, monsieur
merci
Julot.
Beaucoup.
Vraiment, merci beaucoup. Il est 12h58, les auditeurs dans une seconde. RTL.